OK, là, ça devrait marcher, Josiah. Ouais, excellent. Jean 20, ceux qui sont familiers avec l'Évangile, c'est le fun parce que Jean met les choses au clair. Tu sais, dans 1 Jean ce matin, je vous ai cité le verset qui résume c'est quoi le but de l'Épître. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bien, il fait la même chose dans Jean, mais remarquez la différence. C'est que c'est écrit à des non-croyants. L'auditoire cible de l'apôtre, c'est ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc, ce n'est pas la toute fin de l'Évangile, mais c'est la fin de cette section-là, parce qu'après, c'est vraiment comme une aparté par rapport à l'apparition de Jésus, la restauration de Pierre, la restauration finale de Pierre. Mais on peut lire ici au verset 30, chapitre 20, verset 30, « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est là où on part de la fin pour expliquer, dans le fond, l'ensemble, puis ça va nous ramener au début, mais juste ici, quand on voit cet énoncé-là, ça nous donne les 5 éléments clés qui sont couverts dans l'Évangile de Jean. On va les décortiquer, là, mais c'est vraiment, vous allez voir ce que Jean veut communiquer par son Évangile, OK? Puis on va y aller un mot à la fois, OK? Parce que ça nous dit ici, Jésus a fait encore en présence de beaucoup d'autres miracles. Ceux qui connaissent un peu la langue originale, il y a plus qu'un mot en grec pour miracle, mais le mot ici qui est utilisé, c'est le mot « signe ». C'est-à-dire un mot qui réfère, Siméa, là, l'idée c'est, le geste est fait pour communiquer une signification, un sens. C'est pas juste, ah, oh, je fais ça, pouf, non, c'est comme, en faisant ça, je vous communique quelque chose sur, par rapport à moi, ok, il y a un message, le médium est le message, le signe devient le moyen de communiquer quelque chose, ok, et ça c'est important parce que, OK, Jean, là, il tripe sur le chiffre 7, OK? On parle, en fait, de la nature heptatique de l'Évangile de Jean, c'est-à-dire que le chiffre 7, tout est structuré sur 7 miracles qui donnent cours à 7 discours. Puis, OK, il y a beaucoup de 7, OK? Bon, je vais vous les expliquer dans un instant, là, mais... Et donc, les 7 miracles qui sont sélectionnés, c'est la base de la structure. On pourrait compter un 8e, la résurrection de Jésus. Parce qu'à un moment donné, il vous dit, je ne vais pas vous donner d'autres signes, d'autres miracles, le même mot, que celui de Jonas. Puis là, dans le fond, il parle de sa résurrection. Donc là, il y en a qui vont dire, ah ben non, il n'y a pas 7 signes, il y en a 8 si on compte la résurrection. Mais disons que de son ministère public, il y en a 7. Puis l'8e et le couronnement, c'est sa résurrection. Fait que, tu sais, on pourrait s'ostiner 7 ou 8, là, mais disons que par rapport au ministère public de Jésus, c'est 7. Okay? Je vais vous les nommer dans un instant, mais ça, c'est important parce que ça dit, OK, Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles, mais vraiment, Jean en a sélectionné avec un but bien précis. Okay? Ça, c'est important parce que quand on étudie l'Évangile de Jean, on se dit, bien, il manque des bouts, il ne parle pas de tout. Non, c'est justement le but, c'est que vraiment, Jean a sélectionné les choses vraiment avec un focus pour montrer qui Jésus est, qu'il est bien le Fils de Dieu, qu'il est la manifestation de la gloire de Dieu. OK? C'est ça son but. Le but, c'est pas de tout raconter les histoires. Il va vraiment, il y a des affaires qu'il mentionne pas du tout. Il y a des affaires qu'il va en beaucoup moins de détails. Il y a des choses qui sont là, tu sais, le discours de la chambre haute, là. Il y a pas ça, pas en tout, dans toute cette étendue-là, dans les autres évangiles. Puis Jean, il donne 4 chapitres, puis après ça, il y a la prière. Fait que 13, 14, 15, 16, après ça, sa prière 17. 5 chapitres qui sont vraiment dans l'intimité de Jésus avec les disciples. OK? Mais ça, c'est aussi, ça fait partie de son objectif, qu'est-ce qu'il veut communiquer, puis tout ça. Mais donc, quand on comprend ça, les signes sont choisis pour servir un objectif immédiat, c'est-à-dire de montrer la divinité de Jésus, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. OK? Le mot traduit par signe est un des 4 mots pour miracle. Okay? Puis vraiment, Jean prend ce mot-là. C'est le mot qu'il préfère lorsqu'il prend signe, ou tu sais, quand on dit miracle, siméon. Nous, en français, on ne fait pas bien la différence parce que ça dit miracle. Miracle par-ci, miracle par-là, mais il y a quatre mots différents pour désigner miracle. Des fois, ça peut dire signe à certains endroits, mais bon. Et donc, comme je le disais, lorsque ce mot-là est utilisé, l'accent est mis sur ce que le miracle signifie, c'est-à-dire que c'est considéré comme un signe de quelque chose de très important. Donc, je fais ça, ça veut dire quelque chose de très important. Par exemple, okay, je vais prendre l'exemple ultime, là, je parlais de la résurrection, mais dans son ministère terrestre, il y a une culmination, puis à un moment donné, il arrive au miracle de la résurrection de Lazare, qui est vraiment, tu sais, c'est le plus grand des miracles, à part la résurrection, là, sa propre résurrection, mais, OK, parce que le mort était décomposé déjà, ça faisait 4 jours, puis la signification, c'est « Je suis la résurrection et la vie ». Tu sais, c'est plus que je dis « Hey, wow, je fais un super miracle, je sors ce mort qui devrait être, tu sais, que ça se peut pas qu'il revive », mais c'était pour dire, justement, c'est « Je suis la résurrection et la vie », celui que… Fait que toute l'idée du miracle, c'est pour que Jésus révèle qui il est, comprenez-vous? Puis c'est ça pour chacun, là, des miracles, je vais essayer de vous l'expliquer à mesure qu'on avance. Mais, d'abord, ça, c'est le premier mot, fait que, OK… Je relis, là, pour que vous voyez qu'on avance avec chaque mot. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles ou signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Les quatre autres mots sont dans le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Le Christ. 19 fois, ce mot-là est utilisé dans Jean. Le Christ, ça veut dire loin de l'éternel, celui qui est désigné par Dieu, le Messie. Okay, parce que Christ, c'est Messie, là. D'ailleurs, c'est dans Jean aussi que ça dit, nous avons trouvé le Messie, c'est André qui dit ça à Pierre, puis Jean traduit ce qui signifie Christ, okay, ça veut dire loin de l'éternel. Puis c'est la seule place dans le Nouveau Testament où est-ce que le mot Messie est traduit, c'est Jean qui nous donne la traduction. Parce que ça, c'est un mot hébreu, Messie, puis Christ, c'est un mot grec. Okay? Dans Jean 1, 41, on va voir ça la semaine prochaine, Dieu voulant. Et donc, c'est quoi ça ici, l'idée, quand on parle du Christ? Des fois, nous, on dit, dans les milieux protestants, évangéliques, on va dire Christ, Jésus-Christ, on parle de Christ. Certains autres milieux réformés, ou, puis on le voit des fois dans Christ seul, on dit le Christ, parce que dans le fond, c'est comme son titre. C'est pas son. Fait que pour ça, des fois, on va dire le Christ. Les catholiques, puis les réformés, voient. Puis c'est pas faux de dire ça, là, dire parce qu'il est vraiment, c'est Jésus, le Christ. Ou Jésus, c'est son nom, qui est le désigné de Dieu, loin de l'éternel. OK? Et donc, ça réfère à celui qui était attendu. Tu sais, le Christ qui doit venir, pour ça aussi qu'il dit, hey, nous avons trouvé le Messie autrement. On a trouvé celui qu'on attend depuis tout ce temps-là. Donc, c'est ça l'idée ici avec l'emploi du mot Christ. Et donc, Jean, là, non seulement il donne des signes qui disent qui Jésus est, mais il utilise le mot Christ pour désigner, pour montrer que c'est bien celui qui est désigné par Dieu, celui qui devait venir. Ça dit ensuite, donc, vous voyez que Jésus est le Christ, OK? Le Fils de Dieu. Encore là, employé souvent, à 11 reprises par Jean. Évidemment, ça nous parle de sa divinité. Le Fils éternel, le Fils unique, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monogène, c'est un mot français, je savais pas. Le monogène, c'est-à-dire, ça vient du grec. Tu sais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son monogène, son fils, c'est-à-dire que celui qui est unique, là, c'est-à-dire que il n'est pas relié à un autre, il n'y a pas une descendance comme, tu sais, moi j'ai un père et une mère qui ont un père et une mère, okay? Ben, Jésus, lui, il n'y a pas de descendance, ok? C'est ça l'idée de monogène, mono, puis gène, le génétique. Puis là, on ne parlera pas de l'engendrement éternel, là, c'est une autre histoire, là. Ça serait trop long de rentrer là-dedans. Mais là-dessus, tu avais amené un message, je pense que c'est cet été, hein?
Ouais, c'est ça, hein? Avec moi,
là. Ouais. Puis ça nous parle de sa divinité, puis tout ça, là, ça nous pointe.
Ouais, c'est comme la résurrection, là, qui pour ainsi dire, un engendrement.
Ouais. Tu es mon fils, non.
Tu es engendré aujourd'hui.
Oui, tu es engendré, ouais, c'est le psaume 2, hein, c'est-tu 2? Ouais, non, tu es mon fils.
Ouais, puis la parole de Dieu l'applique à la résurrection.
Oui.
Comme quoi, il est comme couronné. C'est le psaume 2, c'est comme on couronne un roi, puis on lui donne la royauté.
Ouais. Mais en fait, fils de Dieu, c'est aussi ici l'idée, parce qu'on regarde dans Jean, souvent, ça va, celui qui est de Dieu. Tu sais, celui, tu sais, Dieu le Fils, celui qui est, dans le fond, la deuxième personne de la Trinité, c'est, ça réfère à la divinité de Jésus, c'est-à-dire, il est le Fils, il est l'égal de Dieu. En tant que Fils aussi, il est adoré comme Dieu. Jésus, là, contrairement à d'autres dans la parole de Dieu, quand il est adoré, il ne rejette pas l'adoration. On voit dans l'Apocalypse, à deux reprises, Jean qui veut adorer un ange, puis peut-être qu'il se trompait, là, peut-être qu'il pensait que c'était Dieu, parce que ça doit être impressionnant quand même de voir un ange. Puis l'ange dit, non, je suis un ange, là, je suis un serviteur de Dieu, adore Dieu. Puis on voit ça aussi dans l'Ancien Testament à une ou deux reprises. Mais Jésus, lui, quand les gens se prosternent, puis l'adorent comme l'aveugle qui est l'aveugle-né qui retrouve la vue, quand Jésus s'identifie à lui, puis il le reconnaît, il l'adore. Jésus dit, ouais, non, adore-moi pas, là. Non, il accepte l'adoration parce qu'il est Dieu. D'ailleurs, Jésus aussi, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Il a cité Deutéronome, tu adoreras le Seigneur seul. Fait que, tu sais, il aurait contredit sa propre parole s'il n'avait pas accepté d'être adoré. Étant Dieu, il accepte d'être adoré parce qu'on adore le Seigneur seul. Donc, voyez-vous que ça proclame sa divinité. Et aussi, ben, Jésus, il est le Fils de Dieu parce qu'il l'a déclaré lui-même. Pas seulement en mots, des fois les gens, des musulmans vont dire « Jésus n'a jamais dit « Je suis le Fils de Dieu », mais tout ce qu'il a dit, comme par exemple, Monique quand il dit que « pour que vous sachiez que le Fils de Dieu, que je ne me rappelle plus comment ça dit, mais il dit « Va, tes péchés sont pardonnés », parce que c'est juste Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés, fait que tu sais, il n'a pas dit « Je suis le Fils de Dieu, virgule, donc je pardonne », mais tu sais, tout, tu regardes le contexte, puis il proclame être Dieu parce qu'il pardonne les péchés, ok? Mais aussi, la résurrection est une grande proclamation de sa divinité. Bon, il y a toutes sortes de choses de façon de le voir, mais c'est ça. Donc, signe, Christ, Fils de Dieu, et aussi le mot croire, et ça c'est intéressant. Tu sais, je relis le verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, là, il l'a à deux reprises dans le verset 31, vous ayez la vie en son nom. Donc, croire. Le mot, pisteo, puis ça, c'est... En fait, c'est utilisé vraiment souvent par Jean, ce mot-là. Le mot revient 90 fois dans l'Évangile. L'idée, là, c'est un peu comme en français, là, faire confiance ou s'appuyer, tu sais, sur quelqu'un. Okay, la foi, c'est comme un transfert de confiance en moi, de la mettre dans un autre. Okay? Donc, je place ma foi, ma confiance, je m'appuie sur Dieu. Okay, c'est ça l'idée. Donc, quelqu'un qui fait confiance à la personne de qui Jésus est et ce qu'il a fait, sa personne et son œuvre, le calvaire, la croix. Et il y a quelque chose d'intéressant, puis ça, c'est très particulier à Jean. Jean prend le mot « croire ». Puis, il l'applique souvent à la croix, à la foi authentique, mais aussi des fois, quand on regarde comme il faut, il parle de gens qui professent, se disent croyants, se disent ayant la foi, mais ne l'ont pas. Par exemple, dans le chapitre 12, il a dit, ils ont cru à Jésus, mais le temps qui est employé, c'est comme quelque chose d'instant. Ah, c'est le Messie, c'est lui qui veut venir. Mais ça dit, mais ils ont préféré, mais... Tu sais, il n'y a pas eu de suite parce qu'ils ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Donc, Jean fait un point de dire, OK, il y a la foi, mais ce n'est pas une foi tout le temps qui est authentique, qui dure, dans le sens que c'est une foi spontanée. Ah, ben, ça doit être Jésus, ça doit être le Messie, mais il a fait un miracle et tout ça, mais ce n'est pas une foi qui est surnaturelle, qui a amené la régénération du cœur. Ça, Jean fait vraiment... Vous l'étudierez, là, de toute façon, quand on va passer à travers l'Évangile de Jean, vous allez voir. Jean en fait un point, là, où est-ce que des gens, il va pointer. Ça, c'était pas la foi authentique. Tandis que d'autres, tu vas le voir. OK, ça, on le voit dans le contexte. Mais fait que le mot « croire », c'est un mot qui est important dans l'Évangile de Jean. Et parce que, justement, parce que il dit « Je vous ai écrit, là, pour que vous croyiez. » Tu sais, le but qu'a écrit Jean, l'Évangile, c'est pour que les gens arrivent à cette foi salvatrice. Puis un Jean, mais c'est pour qu'ils soient affermis dans cette foi. Une fois qu'ils l'ont, là, tu sais, qu'ils soient affermis là-dedans. Donc, très important pour Jean, le mot « croire ». Et finalement, le mot « zoé ». La vie. Ça dit, le fils de... Bon, on va relire encore. Mais ces choses, verset 31, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie, le mot Zoé, en son nom. Utilisé 35 fois dans Jean, encore là, c'est important. Puis souvent, c'est accompagné de éternel. Okay? Des fois, c'est juste vie, puis ça l'implique que c'est vie éternelle, mais souvent, ça veut. Tu sais, justement, Jean 3, 16, que tantôt quand je disais Jésus le monogène, là, mais ça dit la vie, mais ça qualifie éternel. Mais des fois, Jésus, quand il parle « afin que vous ayez la vie », ben ça l'implique que c'est la vie éternelle. Puis la vie éternelle, c'est pas juste en durée, c'est en qualité. C'est une vie qui n'est pas de ce monde, c'est une vie qui est reçue de Dieu. C'est-à-dire, on reçoit cette vie-là, c'est la vie de Dieu qui donne à ceux qui croient. Donc, c'est pas une vie, là, terrestre, améliorée, là, je suis rendu une bonne personne. Non, non, c'est une vie qui n'origine pas de l'homme. C'est Dieu qui donne cette vie. Quand on a le Fils, on a la vie. Les deux vont ensemble. Fait que quand tu as le Fils, quand tu le reçois, Jésus te rend à la vie. OK? Pour ça, c'est tellement important dans Jean, parce qu'on le voit ici, évidemment. Puis il y a beaucoup, beaucoup de parallèles entre l'évangile de Jean et sa première lettre. Parce que ça revient aussi beaucoup, le mot « vie » dans 1 Jean. OK? Puis, tu sais, il y a des places vraiment, là, comme dans sa prière sacerdotale. Bon, il y a le mot « gloire » aussi, là. Il n'est pas dans ces versets-là, mais c'est un mot important. Puis, il parle de sa gloire qu'il avait, puis il dit, puis mais aussi, il parle de cette vie que j'avais quand il prie, là, au Père. Il dit que cette vie que j'ai, qu'eux autres l'aient, puis, tu sais, c'est dans sa prière. Puis aussi, il dit « Je suis la résurrection et la vie » dans 11, 25, puis évidemment le fameux verset. Quelqu'un peut me citer par cœur Jean 14, 6? «
Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nous ne vivons pas. » Donc, la vie ultimement, c'est Jésus. Okay? C'est pas juste quelque chose que je reçois comme « OK, là tu as Jésus, puis à côté tu as la vie. » Non, non, quand tu as Jésus, tu as la vie. C'est pour ça que ça dit « Celui qui a le Fils a la vie. » Ça va ensemble, OK? Parce que Jésus est la vie. Bon. Là, on a compris la base de ce que Jean veut communiquer avec ces mots-clés-là qui reviennent, OK? Là, j'aimerais qu'on regarde un peu la structure de comment il développe ça à travers son évangile. Comme je disais, là, on peut dire 7 signes, on va dire 7 signes de son ministère terrestre, puis le 8e étant le couronnement, sa résurrection. L'eau qui est changée en vin. C'est quoi que ça dit quand il a changé l'eau en vin? Regardez avec moi, puis on va le voir justement à la fin du mois. Et c'est là qu'on voit l'importance. Quand on comprend l'ensemble, ça nous aide à comprendre des fois un verset comme ça. Regardez 2:11. « Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle, signe, que Jésus fait, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Voyez-vous comment ça va tout avec ce qu'on vient de voir? C'est pour ça que je vous dis, tiens, Jean, il a de la suite des idées, là. Il s'en va tout le temps avec le... Un leitmotiv qui répète sans cesse, puis il va toujours dans le même sens. Donc, premier miracle, ou signe, l'eau en vin. Le deuxième, l'officier, là, tu sais, qu'il dit « Ah, dérange pas Jésus », puis il envoie un messager pour guérir son fils, OK? Puis là, Jésus, il dit « Ton fils est guéri », puis là, vérifiez-le. « Hey, à cette heure-là, il a été guéri », vous savez de quoi je parle, OK? Ça, c'est dans le chapitre 4, à la fin du chapitre 4. Ça, c'est le deuxième signe. La guérison du gars au bassin de Bethesda, la piscine, là, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. Le gars paralytique, là, qui pendant toutes ces années-là, il avait jamais réussi. Puis là, hey, Jésus, en une visite, lui, il règle ça. Donc, ça, c'est le troisième. C'est dans le chapitre 5. OK, ça l'ouvre le chapitre 5. Évidemment, et ça, c'est un miracle qui est répété par les 4 évangélistes. La nourriture... La multiplication des pains pour 5000 hommes. 5000 hommes, donc il y a plus de monde que ça, parce que c'est 5000 hommes, il est peut-être venu avec sa femme, puis les enfants, donc ça fait pas mal de monde. Donc ça, c'est le quatrième, puis okay, puis vous allez voir comment ça donne toujours suite à quelque chose, là, OK? Mais je voulais nommer. Il a marché sur les eaux dans le chapitre 6, un cinquième miracle. La guérison de l'aveugle. L'aveugle né, là, celui que je parlais tantôt, c'est dans le chapitre 9. Évidemment, Lazare. Puis ça, là, quand on parle de son ministère terrestre, c'est le plus grand miracle, c'est le couronnement. Là. Pour Jean, là, il termine avec cela parce que c'est comme la cerise sur le sundae. Puis c'est ça que, là, qu'on voit. Avec Jean, on voit beaucoup l'effet crescendo de son ministère terrestre. Il a vraiment sélectionné des événements pour aller prendre la progression de comment, tu sais, parce qu'au début, le Cana, c'est le tout début, puis on avance vite, là, on avance beaucoup plus vite, parce que rendu au chapitre 12, après ça, on parle plus de son ministère public, on est rendu dans l'intimité de la chambre haute avec son discours et tout ça. Fait que son ministère public avec des miroirs comme ça, ça dure pendant seulement cette période-là, là, du chapitre 2 au chapitre 11 puis 12, là, mais le miracle, le dernier miracle, c'est au chapitre 11. Puis bon, comme je vous l'ai dit, on peut compter la résurrection là, au chapitre 20, là, qui serait le huitième signe, parce que lui-même le dit, puis il y a une signification, c'est comme le prophète Jonas et tout ça. Bon. Maintenant, le sens justement que ça donne, quand il a changé l'eau en vin, ça montre que sa divinité n'est pas limitée par les circonstances de la vie, comme là, on n'a plus de vin, puis tout ça. Puis lui, il a été capable, tu sais, de changer l'eau en vin. L'officier, là, il y en a qui disent le noble, là, ben sa divinité n'est pas limitée à l'espace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de se rendre là-bas, puis de toucher le gars, puis tu sais. Non, il a juste pensé, puis tu sais, c'est juste Dieu qui peut faire ça. OK, donc, c'est pas limité par l'espace. Donc, on peut dire que ce n'est pas limité par les circonstances. Oh, il n'y a plus de vin, il y a plein de monde, puis ça. Pas limité par l'espace. C'est pas. On voit avec l'homme Non, c'est pas la piscine. Comment on l'appelle à Bethesda? On dit The Pool of Bethesda en anglais. Hein? Là, vous parlez tout en même temps. Là. Le réservoir. C'est-tu le réservoir? En tout cas, à Bethesda, là, vous savez de quoi qu'on parle? C'est chapitre 5. Chapitre 5, il est au début, là, versets 1 à 18. Mais ça, c'est quoi que ça nous communique? Ça veut dire que la divinité de Jésus n'est pas limitée au temps et aux conditions. Tu sais, c'est pourquoi, mais là, il faut attendre que l'ange y vienne, puis il faut que les conditions soient toutes là. Non, Jésus arrive, lui, il a zéro condition de tout ce que le gars attendait pendant toutes ces années, puis tiens, t'es guéri. OK? Voyez-vous que ça communique encore quelque chose. Donc, le quatrième, quand il marche sur la mer, ça montre que cette divinité n'est pas limité par les ressources humaines. C'est pas, hey, les gars, aidez-moi à taper les pieds, tout ça. Oups, excusez. Non, tu sais, il a marché sur l'eau. Il n'y a pas un humain qui peut faire ça, donc il n'y avait pas besoin des ressources d'aide humaine et tout ça. La guérison de l'aveugle, l'aveugle né, OK, puis c'est là la fameuse question, c'est-tu lui ou ses parents qui ont péché, là? Donc, cette divinité n'est pas limitée par la loi naturelle, je veux dire, quelqu'un qui est aveuglé n'est pas supposé de voir parce que c'est de naissance, tout ça, mais Jésus est plus grand que ça. Puis, t'as-tu trouvé le mot pour piscine? Non? Réservoir? Ok.
Dans les commentaires que j'ai, ils disent Bethesda, ben, ça signifie maison de la source, mais pas plus que ça.
Ok, en tout cas.
Jean 5:2, c'est piscine.
Piscine? Ok, ah, piscine. Puis la résurrection de Lazare, mais c'est quoi que ça déclare sur... Attendez. Hey, non, je me suis trompé. Ah, j'ai... Faut tout qu'on en recommence. OK. La fameuse piscine, c'est qu'il n'est pas limité par les temps, les conditions. Comme je disais, il n'y a pas besoin d'attendre l'ange, pas besoin d'attendre tel temps, OK? J'ai oublié les pains. Les pains, c'est ça, les ressources humaines. On n'a quasiment rien. 5 pains, 2 poissons. C'est ça que ça ne marchait pas, mon affaire. 5 pains, 2 poissons. Mais Jésus, il peut prendre juste 5 pains, 2 poissons. Puis d'ailleurs, celui qui a fait Chosen, c'est le verset que Seigneur a donné. T'as pas grand-chose, mais fais-moi confiance, je peux faire de quoi avec ça. Mais donc, ça, 5, lorsqu'il marche sur la mer, c'est là, c'est pas limité par les lois naturelles. Un homme, normalement, ça ne marche pas sur l'eau. Puis là, faites-moi pas la joke. Ah, ben là, le lac était glacé. Non, non, le lac n'était pas glacé. Il a vraiment marché sur l'eau, là. La résurrection, non, pardon, la guérison de l'aveugle. Là, je vais arrêter de me mêler. Là. Fait que là, l'aveugle au chapitre 9, ça, c'est le 6e miracle. Donc, ici, ça nous montre que la divinité de Jésus n'est pas limitée par la disposition génétique de la personne. Tu sais, je veux dire, tu peux prendre quelqu'un dans les pires conditions, il est Dieu, il est capable de le restaurer. Et la résurrection de Lazare, la divinité. Sa divinité, Jésus, n'est pas limitée par la mort, même la mort. Puis ça, évidemment, la résurrection aussi montre ça, là, mais le monde pour Lazare, puis aussi le monde pour lui-même. Donc, voyez-vous comment le miracle communique quelque chose par rapport à la personne de Jésus? OK? C'est ça le but. Oui?
Est-ce que tu dirais la
Oui. Les 7-8. OK, je vous l'ai redit. L'eau en vin, la divinité n'est pas limitée par les circonstances de la vie. Là, tu les notes, là? L'officier, OK, dont le fils est guéri, sa divinité n'est pas limitée par l'espace. Le gars à la piscine, au chapitre 5, sa divinité n'est pas limitée par le temps et les conditions. Numéro 4, les 5, la multiplication des pains pour 5000 personnes, divinité n'est pas limitée par les ressources humaines. Marcher sur l'eau, divinité n'est pas limitée par les lois naturelles. Guérison de l'aveugle-né, sa divinité n'est pas limitée par la disposition génétique, là. Et finalement, résurrection de Lazare et lui-même, sa résurrection, sa divinité n'est pas limitée par la mort. Jésus n'a aucune limite parce qu'il est Dieu. C'est ça l'idée. Voyez-vous, c'est vraiment... Est-ce que ça vous aide à comprendre? Maintenant, on a un regard sur Jean qui dit, ah ouais, OK, on voit plus un peu. C'est important pour Jean parce que Jean, il y a vraiment un message même dans la structure, plus que les autres évangiles. C'est pas que les autres ne sont pas structurés, mais Jean, il en fait vraiment un point avec ses sept, puis ça, OK? C'est connu, là, quand on étudie Jean, on voit vraiment que la structure heptatique est super importante pour Jean. Effet du signe. Parce que là, les signes, ça communique quelque chose, mais aussi ça a produit un effet sur les gens autour. On apprend que lorsqu'il fait, puis on l'avait tantôt, on l'a lu tantôt, lorsqu'il a fait le miracle du vin, ça dit que les disciples ont cru en lui. Donc l'effet, ça l'a amené à la foi. OK, des disciples, ils ont, oh, c'est pas n'importe qui, ils ont cru, tu sais, en sa personne. L'effet pour l'officier, la guérison du fils, l'officier et sa maison ont cru en lui. Voyez-vous, c'est quoi l'effet? Ça se peut-tu que ça soit la foi des disciples, la foi de l'officier, deuxième miracle? Mais là, c'est moins drôle avec le troisième, avec le miracle de l'homme, la guérison. Là, lui, bon, ça ne dit pas clairement, ça ne dit pas il a cru, là, mais on apprend par contre que les Juifs cherchaient à le tuer. Eux, ils n'ont pas cru, ça a été l'incrédulité. Ça a été un des événements instigateurs pour augmenter là, la tension, la violence meurtrière contre Jésus. OK?
C'est leur cœur.
Ouais. Oui, c'est ça. Le miracle les a disposés. À un moment donné, mais c'est où? Ça dit, à un moment donné, il grinçait des dents tellement qu'il l'haïssait. C'était vraiment une haine meurtrière. C'est probablement démoniaque. Là. Pas probablement. Quatrième miracle, c'est-à-dire celui de la multiplication des pains. La foule le voyait. Oh, ça doit être un prophète. C'est une foule. Ça ne dit pas qu'ils ont tous cru en lui. Il y en a sûrement là-dedans qui ont vraiment... Mais en général, l'effet sur la foi, oh, c'est un prophète, puis ils le disent, là. Regardez... Hein? Je lis le don.
Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui va venir dans le monde.
Merci. OK. Bon. Puis tu sais, quand ce matin, je parlais de Deutéronome 18, là, le prophète, là, c'est pas comme Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, c'est vraiment le prophète, celui qui est le prophète de tous les prophètes, là, l'ultime prophète, autrement dit. Là, okay? Cinquième miracle, l'effet que ça l'a eu, les disciples l'ont adoré. Fait que non seulement ils ont cru en lui, mais c'est quoi qui est arrivé quand il a marché sur l'eau et il est rentré dans le bateau? Ils l'ont adoré, ils sont prosternés, puis... T'es vraiment le Fils de Dieu. Ça l'a comme vraiment renforcé. Ça l'a affermi leur foi. Puis là, ça l'a même amené une réponse d'adoration envers lui. OK? Donc, ça a eu un effet bénéfique sur les disciples. En même temps, sur eux autres aussi, bon, leur incrédulité, puis tout ça, tu sais, se voir soi, puis voir Dieu, il y a eu cet effet-là, là, quand ils l'ont vu marcher sur les eaux. L'aveugle, ben c'est quoi l'effet? Sa conversion, parce que c'est le fun à regarder la progression quand on voit l'aveugle au début. Bon, parce que vous savez, il y a le miracle, puis là, il est questionné. OK? Le leadership religieux vont le voir, ah, c'est qui t'a fait ça? Puis là, puis même, c'est quasiment humoristique parce que là, ils reviennent le voir, puis ils disent, ben, coudon, voulez-vous croire en lui? Parce que vous me reposez les mêmes questions, puis hein, voulez-vous être son disciple? Puis, non, on est disciple de Moïse, puis toi, tu nous enseignes, puis t'es né dans le péché. Puis, mais c'est drôle, parce que c'est comme, les regards, mais coudonc, là, voulez-vous... Je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, Ça devait être assez spécial être témoin de cette scène. Mais ça l'a donné au bout du compte, parce que là, ça, j'aime tellement ça, puis je me rappelle plus c'est quel commentaire. Il dit, quand il a été rejeté par la religion, parce qu'à un moment donné, c'est ça qu'il dit, là, t'es né entier dans le péché, puis là, tu sais, va-t'en, ça dit, ils le chassèrent. OK? Fait qu'autrement dit, là, c'était fini les interrogations, il voulait plus y voir la face, mais Jésus se pointe. Une fois qu'il a été chassé par la religion, il a été accueilli par la grâce, là, Jésus... Il se pointe, puis là, c'est drôle parce qu'au début, il demande, moi, c'est qui? Ah, ça doit être un... je sais pas c'est qui, mais il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Après ça, ça doit être un prophète. Mais là, quand il arrive devant Jésus, puis là, tu sais, lui, il n'a pas encore tout, là, le puzzle n'est pas encore tout placé. Fait que là, Jésus se présente à lui, puis là, ben, tiens, on va aller le voir, là, parce que je veux avoir les bons mots. Jean 9, c'est à la fin de Jean 9. Puis il y a un sens, parce qu'après ça, Jésus leur parle des ténèbres, qu'ils sont encore dans leur péché parce qu'ils sont aveugles, puis tout ça, mais bon. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, verset 35, et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin je crois en lui? » Voyez-vous, c'est pour ça, là. OK, il savait bien que Jésus avait fait ça, mais là, il n'était pas trop sûr. Puis là, regardez ce que ça nous dit au verset 37. Donc, il est disposé, OK, c'est qui pour que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Autrement dit, c'est moi le Fils de Dieu, OK? Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis, la pression, bon, on a la suite des choses, justement, là, par rapport au jugement, les ténèbres, tout ça, mais... donc, l'effet, ça a été quoi? De plus en plus, il arrivait, tu sais, autant qu'il y a eu sa cécité physique, qui a été résorbé, bien là, sa cécité spirituelle, autant que les leaders, eux autres, sont restés dans l'aveuglement. Puis il y avait ça aussi, c'était vraiment... Il y a une signification, il disait à Israël, vous êtes aveugle, vous ne reconnaissez pas votre Messie. Puis un aveugle né est capable de me reconnaître. Fait que c'est bourré de messages puis de significations, ce qui se passe là. C'est le jugement, parce qu'on sait que Dieu, il a tout planifié ça, c'était le jugement contre l'aveuglement spirituel du leadership d'Israël, exactement comme dans Ésaïe, là. Ils sont aveugles, ils ne voient pas, puis tout ça, comme dans Ésaïe 9. Tu sais, puis l'appel d'Ésaïe, c'est « Vas-y, puis ils ne vont pas te croire. » C'est ça l'appel, pas Ésaïe 9, Ésaïe 6, tu sais, en tout cas. Donc, c'est ça, il a cru en lui. Puis, le dernier miracle là, de son ministère public, lorsqu'il a ressuscité Lazare, ça dit que beaucoup de Juifs crurent en lui. Et probablement que c'est une foi authentique, ils ont vu ça, puis là, tu sais, « Hey, oui, c'est vraiment... » puis après ça, on voit par contre dans le chapitre 12 que là, il y en a qui n'étaient pas toujours authentiques. Puis c'est là que ça dit qu'ils ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. OK? Puis on pourrait dire, OK, pour le dernier, parce que je vous dis, là, si on met celui-là de son ministère terrestre, ça suit tout, c'est 7. Mais le dernier miracle, celui de sa propre résurrection, bon, on peut dire c'est pour que tous croient en lui ou ceux qui lisent. Parce que la résurrection, c'est la preuve ultime de qui Jésus est, de sa divinité. Ben, la résurrection, c'est afin que tous croient en lui, là, qu'il est vraiment celui qui dit... Tu sais, si quelqu'un était mort sur une croix en disant qu'il est Dieu, puis ça avait fini là, ça aurait été juste une histoire ancienne. Mais là, il a ressuscité des morts, tu sais, il y a des témoins, puis tout ça. Donc là, c'est pour que vraiment qu'on croit. C'est pas n'importe qui est mort sur cette croix, c'est le Fils de Dieu, puis... OK, voyez-vous, c'est ça l'effet. Êtes-vous encore tout avec moi? Good. On avance encore un peu? J'ai d'autres choses, j'ai plus de matériel que ça, mais... Je vais prendre le temps pour ça. Juste ici, récapituler un petit peu, puis ça aide à comprendre. Les miracles qu'on voit, là, puis qu'on vient de considérer, il faut les comprendre dans un contexte historique et narratif. C'est-à-dire, c'est vraiment des choses qui sont arrivées, c'est historique, là, c'est pas des histoires inventées, mais Jean veut, il donne une narration. OK, puis là, je vous l'explique. C'est pas comme une biographie, OK, Jésus est né à ce moment-là, puis après ça, il est arrivé ça, puis il veut pas nécessairement suivre une chronologie, il veut pas, tu sais, mettons, Jean a comparé, pour ça qu'on dit les synoptiques, puis on dit Jean, les synoptiques ont beaucoup plus, tu sais, OK, on suit la vie de Jésus pas mal, là, dans l'ordre, là, tu sais, OK, dans Jean, on voit que il y a Jean-Baptiste, puis après ça, il y a le ministère public, mais... Pour les autres choses, Jean n'avait pas tant un souci de tout garder en ordre chronologique, mais plus de marcher en ordre thématique. Parce que c'est pour ça que des fois, on va dire, ah, y a-t-il des contradictions entre l'évangile de Jean et les synoptiques? Non, c'est que Jean, en fait, Jean n'avait pas le souci de dire, je vais tout vous présenter dans l'ordre. Non, c'est que je veux progressivement vous présenter la personne de Christ. Fait que pour lui, la chronologie, puis c'est pour ça que je vous dis, c'est historique, c'est des vraies choses, mais c'était plus, il y avait une idée aussi narrative. Vous venez nous amener le narratif de qui est Jésus. Fait qu'il a sélectionné des événements précis pour nous amener de plus en plus vers le point culminant de la résurrection de Lazare, puis ensuite de la résurrection de Jésus. Il y a vraiment cette idée-là. Fait que tu sais, comment c'est que c'est le miracle à Cana? Parce que, tu sais, le miracle à Cana, c'est juste Jean qui en parle, mais ça va dans l'idée de ce qu'il va amener, OK? Ça, c'est important à comprendre parce qu'il y a vraiment, il y a un but précis qui poursuit avec ça. Évidemment, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, là. OK? C'est le Saint-Esprit qui a tout dirigé ça, là. Toute écriture est inspirée de Dieu, là. Mais Jean, dans le fond, il cherche à présenter des preuves que Jésus est le Fils de Dieu. Fait que la chronologie, tout ça, c'est assujetti à ça. Pour lui, c'est vraiment, il va sélectionner des choses qui vont tout le temps amener ce même point-là. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, selon cette facette-là. Okay? C'est pour ça qu'il diffère tellement. C'est pour ça qu'on dit les synoptiques, les trois premiers, puis Jean est dans une catégorie à part. Okay? Parce que c'est complètement fait différemment que les trois autres évangiles. Autrement dit, la structure même de Jean sert à l'objectif de présenter Jésus comme le Fils de Dieu. Okay? Il a construit son évangile dans le but de servir l'objectif de dire Jésus est le Fils de Dieu. Fait que ça, c'est important à comprendre parce que c'est là qu'on voit que la structure est importante, puis ça nous aide dans notre exégèse. C'est-à-dire, exégèse, c'est aller soutirer le sens du texte tel qu'il est. Parce que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mot exégèse, c'est quand on est devant un texte, on veut voir c'est quoi que le texte dit. Pas ce que moi je veux que le texte dise, ce que je veux faire dire au texte, c'est quoi qu'il dit. Jésus parlait à qui? Puis, OK, ben là, pour les évangiles, mais il parlait à qui? C'était quand? C'était où? Puis là, ça va nous aider puis à vraiment comprendre c'est quoi que le texte dit, c'est quoi que Dieu veut nous communiquer. Parce que il y a un principe d'interprétation de la Bible qui est très important, puis on en a effleuré un peu hier dans le cours de théologie, mais quand on approche un texte biblique, il faut approcher le texte avec une... OK. Je fais attention à mes mots parce que je ne veux pas être prétentieux. Il n'y a pas personne qui approche le texte avec une neutralité totale, puis, tu sais, comme, ou tu sais, d'être sûr de. Hey, moi, je l'interprète bien la Bible. Parce qu'on peut tous faire des erreurs, tu sais, puis ici, pendant des années, je pensais comprendre, puis il y a des affaires qui nous échappaient, OK? Puis là, il y a différents milieux chrétiens, puis il y a des lunettes chrétiennes, là. Mais pour à être fidèle aux Écritures, c'est juste puis on met de côté notre culture chrétienne, nos lunettes chrétiennes, puis dire, OK, c'est quoi que le texte communique là? Puis pour vous dire, moi, je vous donne juste un exemple qui, moi, m'aide à comprendre ça pour ma propre vie. Hier, on parlait qu'on est dispensationaliste, OK? C'est-à-dire qu'on croit que Dieu, à travers les époques, a travaillé de différentes façons. OK, dans la Genèse, nos premiers parents, la dispensation de l'innocence, après ça, quand le péché est arrivé, la conscience, okay, qui veut dire avec la connaissance, ben justement, ils ont pris la connaissance. Puis là, c'est le gouvernement humain avec Noé, puis bon, une progression comme ça. Ça, c'est nos lunettes pour interpréter la Bible. Il y en a qui sont des enfants de Dieu, c'est des chrétiens, ils ont l'Esprit de Dieu, là, c'est nos frères et sœurs. Eux, ils ont des lunettes de théologie de l'Alliance. OK? Ils voient la même Bible, les mêmes passages, mais différemment. OK? Puis moi, ce que je suis toujours critique de moi-même, je veux toujours rester un esprit ouvert, d'être capable de remettre en question. Des fois, je regarde un passage, je me dis, OK, comment un gars de dispensation de l'Alliance, une fille, là, comment quelqu'un de cette persuasion-là voit ça, puis pourquoi? J'essaie de comprendre, c'est pas des hurluberlus, puis tu sais, je veux dire, c'est leur lunette, mais j'essaie de comprendre ça, puis moi, je comprenais, je suis par conviction dispensationaliste, mais ça ne m'empêche pas de penser aussi, là, tu sais, puis d'essayer de voir pourquoi quelqu'un croirait ça. Mais c'est un peu ça, c'est que, voyez-vous, on a le même texte, mais des fois, comment qu'on l'approche, ça peut teinter notre interprétation. Je donne un exemple à ce que je vous ai dit là. Si je lis un prophète, OK, on va prendre un exemple classique, Ézéchiel 40 à 48, le temple millénaire, OK? Nous, on voit ça comme le temple millénaire à venir, OK? Quelqu'un de la théologie de l'Alliance voit ça comme Christ, puis le croyant, le temple du Saint-Esprit, puis tout ça. Quand même assez différent, là. OK? C'est le même texte pourtant. Fait que là, l'idée de l'interprétation littérale, c'est bon, mais c'est quoi que le texte veut dire? De quoi que ça parle? Ça parle-tu du chrétien sous la Nouvelle Alliance ou ça parle de, du temple qui va venir? De... Fait que là, c'est là qu'il faut que tu t'assoies, puis OK, faut soit Saint-Esprit, là, c'est toi qui es l'enseignant. Puis je vous essaie juste de vous expliquer ça, tout ça pour vous dire que quand on approche Jean, en passant à toutes les affaires de la théologie de l'Alliance puis dispensationaliste, je ne l'ai pas nécessairement donné ça comme exemple avec Jean en particulier, là, parce que c'est, ça n'a pas autant de répercussions parce qu'il y a moins de matériel eschatologique et tout ça. Ça fait plus l'unanimité, je dirais, quand on parle de ce domaine-là, parce que, mettons, Matthieu 24, là, il n'y aurait pas des accords selon la dispensationaliste ou théologie de l'Alliance. Mais je vais juste vous amener ça pour dire que quand on est face à un texte, on a une approche, on est biaisé. Il faut juste être honnête, là, puis puis je veux dire, c'est normal aussi, là, dire, on est né à quelque part dans un lieu, puis on est arrivé d'une demi dans telle église, puis tout ça, puis c'est correct, là, puis c'est pas comme... Mais je veux juste vous amener le point suivant, et je vais pas mal conclure avec ça, parce que là, la structure, ça va être vraiment pour la semaine prochaine, aller plus en détail là-dessus, mais quand on regarde quelque chose comme un évangile comme ça ici, qui est un récit de la vie de Jésus, puis tout ça, ou n'importe quel autre livre de la Bible, les lunettes ultimes à avoir pour pas tomber dans l'erreur, est-ce que j'étudie la Bible comme un livre à étudier, ou est-ce que je veux la bonne interprétation, ça c'est selon l'arbre, la connaissance du bien puis du mal, ou, pour reprendre les paroles de Jésus dans le chapitre 5, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie, mais vous ne venez pas à moi. Okay, attends, je vois le citer, je pense que je ne l'ai pas bien cité. 39-40. 5-39-40. Les pharisiens ici. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Hein, ça revient encore avec notre thème de tantôt. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Quand on étudie un évangile comme Jean spécialement, ça regorge de paroles de vie. Puis quand on étudie comme ça ensemble, comme église, c'est pas juste de dire « Ah, ben là, je comprends mieux Jean, puis OK, puis c'est bien de, tu sais, je pense que ce qu'on voit là, ça nous aide à comprendre. On voit que Jean a de la suite des idées, ça, c'est des outils, mais ultimement, c'est pour découvrir Jésus, notre vie, c'est pour découvrir tout ce qui est dit sur Jésus, c'est quoi, c'est qui cette personne-là qui nous est révélée par Jean, OK? Celui qui est la vie. Donc, c'est ça. Ultimement, il veut nous communiquer une personne. Il veut qu'on découvre celui qui est non seulement la personne principale de cet évangile, mais de toute la parole de Dieu. Puis ça, ben c'est ça. C'est par la foi, puis c'est une belle aventure. C'est pour ça que j'ai commencé cette série-là en disant, on commence une aventure de la foi. On découvre Dieu ensemble. Puis Dieu est inépuisable. T'sais, c'est comme, on peut dire le temps, waouh, c'est donc bien beau sur Dieu, comment ça, puis ça. Donc, c'est pas mal ça que je voulais. Je vais arrêter là parce que j'ai pas mal d'autres matériels que là, ça serait trop long. Ça fait déjà 43 minutes que je vous entretiens. Auriez-vous des questions? Je pense que ça se prête peut-être à des questions s'il y en a qui... Oui, Christina?
Je
pense
que Jean a écrit pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu ou que Jésus est Dieu?
Que Jésus est Dieu le Fils. Ou pour le dire, dans ce matin, comme j'ai résumé, si on met très simple, là, Jean... a été écrit pour manifester la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la manifestation de la gloire de Dieu. Tu sais, Jean, là, se dit, hey, Jésus, là, c'est tout ce que tu peux voir du Dieu de gloire. Il est venu le manifester. Donc, il veut... Puis, pour prendre aussi, comme on l'a vu tantôt, que vous croyez qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Mais Fils de Dieu, là, c'est un terme de divinité, là. Le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous allez la vie en son nom. Ça répond-tu à ta question? T'as pas l'air... Je sais pas...
Non, mais dans le vocabulaire, dans la grammaire, moi, je peux dire ça.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Puis je sais que tu n'es pas incrédule de ne pas penser que Jésus est Dieu, là. Je comprends ta question.
Mettons qu'à l'humanité de l'homme, c'est en tant qu'il est homme.
C'est son humanité.
Puis quand il est fils de Dieu,
c'est sa divinité.
Non, mais parce que tu faisais référence aux musulmans qui disent que Jésus. Que Jésus est le Fils de Dieu, mais il
n'est
pas Dieu.
Ouais, toujours quand ils disent, c'est diminutif quand ils disent Fils de Dieu. Ouais, je ne sais pas s'ils vont dire Fils de Dieu, les musulmans. Je ne pense pas qu'ils vont dire ça. Parce que bibliquement parlant, l'expression Fils de Dieu est une expression de divinité.
Ils disent Fils de Marie.
Ah, Fils de Marie.
C'est la seule femme qui
n'a pas dans le
cœur. Ah, ok.
Ouais.
Ah, ok. C'est aussi, parce que moi, je me trouve à comme. J'ai des discussions avec mes enfants parce que comme un Dieu, trois personnes, ça porte quand même à la confusion, surtout dans le cerveau d'un enfant, même pour un adulte. Mais tu sais, c'est comme, on sait que Jésus est Dieu parce que Dieu est trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint. Fait que c'est comme, Fils de Dieu, c'est comme le Fils de Dieu le Père. Mais tu sais, c'est ça. C'est quand même si on met la grammaire de côté, tu sais, juste pour un cerveau humain, c'est dur à concevoir, là, c'est comme la foi qui fait juste commencer.
Ben, puis dans 1:18, on l'a vu la semaine dernière, c'est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. Ça, c'est ici, le 1:18, ouais. Qui est dans le sein du Père.
Ouais,
encore là, Dieu le Fils unique est dans le sein du Père. Et ouais. Celui qui l'a fait connaître.
Moi, Jéhovah, il croit pas que
Jésus est le Fils de Dieu, mais pas Dieu. Ben, disons, quand ils disent Fils de Dieu, c'est avec un F minuscule, puis c'est comme...
Un petit Dieu.
Ouais, c'est ça, un petit Dieu, avec un D minuscule.
C'est le Fils de Dieu. Plus que les
musulmans,
je pense.
Oui, Maxime?
C'est juste qu'il y a une variante dans le texte que tu as dit, dans Jean 1:18, la plupart, ils n'écrivent pas Dieu, le Fils unique, ils écrivent juste le Fils unique, malheureusement. Le
Fils unique du Père.
Ça serait pratique, là, j'aimerais ça.
Je pense que c'est une des seules versions qui dit comme ça, Dieu, le Fils unique.
Ouais.
OK. Dave?
C'était intéressant aussi, tu sais, quand tantôt, tu parlais de l'homme qui a été guéri à Bethesda.
Oui.
Puis tu sais, la réaction, tu sais, les autres avaient cru, puis là, lui a cru, mais tu sais, il y a eu une
réaction autorités.
Contraire, les autorités. Puis la raison qu'ils ont réagi comme ça, c'est qu'ils ont compris que le message que Jésus envoyait, c'était « Je suis cet homme-là ».
Ouais.
Fait que tu sais, autant la réaction positive que négative, ouais. Ça montre que le message était là et qu'ils l'ont compris.
C'est un bon point, ça. Puis à un moment donné, je me rappelle plus, il y a le commentateur biblique qui disait si des fois on a de la misère à comprendre ce que Jésus veut dire, les pharisiens viennent à notre rescousse pour nous expliquer. Ouais. Par exemple, quand Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis, ouais, c'est quoi qu'il veut dire? Ils ont pris des roches et ils voulaient le lapider. Ouais, c'est-à-dire qu'ils comprenaient clairement qu'il se faisait égal à Dieu. Ouais. Il disait qu'il était le je suis. Du buisson ardent.
Ouais.
Parce que je suis, tu sais, ouais. ça réfère je suis celui qui suit, là, Exode 3.
Ça peut être un bon point avec les témoins de Jéhovah, justement, parce que c'est, regarde, les pharisiens ont compris que
c'est donc que c'est les ennemis. Ça, c'est vrai pour la résurrection, tu sais, des fois, quand on parle d'historien, ah, Jésus est-il ressuscité? Ben, les ennemis de Jésus prouvaient, là, en dehors de la Bible, dans la Bible aussi, mais en dehors de la Bible, autant ses ennemis, tout le monde disait. Tout le monde confirmait que Jésus était ressuscité. T'sais? Parce que c'était pas juste des gens amicaux, oh, j'ai juste une petite gang, puis ils sont tous entendus à dire la même affaire. Ben non, des gens qui détestaient Jésus, ils confirmaient que, t'sais, hein, il est ressuscité des morts, tu comprends? Oui? Non, là, je parle des références extra-bibliques. Ah, non, ça, c'est 8:58. Oui, Christophe?
Justement, pour Adon. Ajouter à ce que tu disais, justement, avec Westhoff, quand il parlait à Joe Rogan, dans ce qu'il disait justement dans les preuves historiques de la chrétienté, le début, dans les premiers siècles, ben, les objections que les gens avaient, c'était pas que Jésus était ressuscité, c'était que c'était stupide d'avoir un Dieu qui était ressuscité. C'est que c'était comme...
Il reniait pas qu'il l'était, il était juste pas d'accord.
C'est juste qu'il disait, ah ben, t'es un petit Dieu. Dans le fond, c'est comme, moi mon Dieu, il est grand. Il est pas mort, là.
Fait qu'en ridiculisant, en comprenant pas la portée de la signification, il confirmait quand même qu'il y avait une mort et une résurrection de Christ. Ah, c'est bon, ça. J'avais pas entendu cet argument-là, mais. Ben, amen. On va prier, puis on va terminer ça. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est si riche. Et merci que. Il y a toutes sortes de façons de la découvrir. Le dimanche matin, une façon, puis là, on a une vue à vol d'oiseau. Et merci que tout ça nous aide à comprendre et découvrir, Seigneur, qui tu es. Et merci spécialement. L'évangile de Jean est tellement unique. Ça a toujours été cher dans mon cœur, puis je suis vraiment content qu'on s'assoie ensemble pour considérer cette partie merveilleuse de ta parole, Seigneur. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu. Moi, on a le droit d'avoir des préférés, puis j'aime, c'est mon évangile préféré, puis Seigneur, merci qu'on a cette joie de le considérer ensemble. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.